ferons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons, comme toujours, reprendre un sujet d'actualité, mais c'est une actualité répétitive qui est le sujet, le rapport avec la technique. Alors, évidemment, des arts qui sont les sujets de notre émission, notamment l'architecture ou l'urbanisme, mais d'une manière générale, c'est un problème de la société et qui, on peut dire, d'une manière cyclique, devient un sujet d'actualité très important. Alors, c'est pas quelque chose de très récent. On peut se souvenir, ou du moins, on le sait, même pour les plus jeunes d'entre vous, que ce sujet de la technique est dans le discours de l'actualité philosophique, on peut dire, apparaît depuis la moitié du siècle dernier comme une constante. Il y a eu même des penseurs, des spécialistes, des philosophes qui ont parlé de ça et écrit sur ce sujet. Alors, sur l'art, le rapport de la technique, il y a un ouvrage majeur qui, je ne sais pas s'il est toujours en librairie, mais qui est « Art et technique » par Pierre-Franck Castel, qui, à mon sens, résume le problème de cette ambiguïté et qui passe notamment par dans l'architecture où il y a un faux débat qui, hélas, perdure dans les écoles d'architecture bien souvent, de dire « est-ce que l'architecture est un art ? Est-ce que l'architecture est une technique ?» Bien, dans ce cas, on peut dire ou les deux à la fois, ou l'un en différence de l'autre. Ça veut dire que ce que dit Franck Castel, c'est que l'art et la technique ne sont pas des choses qui elles sont complémentaires, mais elles ne sont pas du même niveau. Donc je crois que c'est cela qui est l'essentiel. Mais aujourd'hui, je ne voulais pas vous parler du rapport de la technique à l'architecture, si j'en parlerai, évidemment, mais ce n'est pas l'essentiel du sujet, parce que vous entendez, on a déjà parlé ici d'ailleurs, de l'intelligence artificielle de ChatGPT et qui va révolutionner une société, dit-on. On entend beaucoup à la fois, évidemment il y a des louanges, mais ce que l'on entend surtout, ce sont les critiques. Et on peut dire que c'est devenu une spécialité pour certains. Il y a un philosophe qui écrit, qui parle dans les micros, qui s'appelle Sadin, et lui aussi qui voit ça comme un danger et qui demande un moratoire, mais il n'est pas le seul. Alors là, c'est un philosophe, mais il y a aussi un scientifique qui, je crois, cumule plusieurs diplômes de médecine ou ingénieur également, qui s'appelle Laurent Alexandre. Alors lui, il est pas critique, il est visionnaire, ou du moins il se prétend visionnaire. J'ouvre une parenthèse, j'ai répété plusieurs fois que le titre de l'émission était ironique sur « Où vivrons-nous demain ?» parce que justement, je pense que le futur ne nous est pas dévoilé et que l'émission, elle est surtout sur le présent et une interprétation et une compréhension du passé. Bon, je ferme la parenthèse pour revenir à Laurent Alexandre. Et Laurent Alexandre, il est lui le visionnaire de l'homme augmenté. Alors, il prévoit qu'on va mettre des puces dans les cerveaux de nos futurs compatriotes citoyens, mais ils voient ça aussi avec, pour ne pas créer des disparités entre les peuples, une sorte de vaccination mondiale qui serait une, pour ne pas avoir des races inférieures. Donc il est dans une anticipation. Alors, je ne vais pas dire un délire, mais enfin, je le pense, qui est évidemment totalement fictionnel. Alors, justement, pour parler de la fiction, on a dans ceux qui craignent que l'homme soit dépassé par l'intelligence artificielle, et c'est ce que l'on entend le plus souvent. Là, j'ai pris un extrême, mais la crainte, alors on l'a vu avec les échecs où on a des machines qui se battent contre les grands maîtres des échecs, mais évidemment, les échecs, c'est quand même un jeu mathématique, à mon avis. C'est pas de l'ordre de la philosophie et des humanités ou du domaine de l'art et de la création. Ça me paraît pas un très bon exemple et une démonstration très efficace. Alors, ce que l'on craint, effectivement, c'est que l'homme soit dépassé. Alors ça, c'est un vieux fantasme aussi. Je pense que ça date de l'Antiquité. L'homme qui est dépassé par sa création, c'est Pygmalion dans les mythes grecs. Et puis, on a plus récemment, avec le mythe de Frankenstein. Alors, Frankenstein étant le docteur, n'étant pas la création, mais le docteur Frankenstein crée à partir de greffes successives un être qui, évidemment, qui lui échappe. Et ça, c'est, je crois, aussi, vieux comme le monde, la création qui échappe à son créateur et qui se retourne contre lui. Mais alors que l'on soit dans des films d'horreur ou dans des contes infantiles, avec par exemple Pinocchio aussi, c'est la création de l'homme-machine et des robots que Elon Musk, des robots androïdes que Elon Musk montre. Le nombre de films sur le sujet est un, je crois, un blockbuster de Hollywood, d'avoir les robots dans des fictions et qui dépassent les humains, qui sont des humanoïdes, qui ont des sentiments. Alors, la question qui est posée par certains scientifiques, et ça me paraît absolument sidérant, c'est est-ce qu'on va pouvoir greffer une conscience sur une machine ? Alors, effectivement, je pense que la réponse est dans la question. La conscience, évidemment, est impossible pour une machine, puisque c'est le propre de l'humain. Mais apparemment, ce genre de débat continue d'agiter des gens qui ont ou envie de se faire connaître, ou alors qui ont des véritables craintes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me semble un faux débat complètement. Alors, ça rejoint, comme je vous parlais de la technique, d'une manière plus générale, un débat du XXe siècle, même sans parler des robots, qui est, d'une manière générale, posé sur la technique. Alors, c'est très surprenant parce que cette crainte de l'intelligence artificielle, on a une sorte de mythe ancien, comme s'il y avait une main invisible. Alors, les dieux de l'Olympe ou les Illuminati, que sais-je donc, qui fabriquent la technique, et puis la technique qui, comment va-t-on s'en servir, et on a cette technique qui nous échappe. Alors, ça, c'est quelque chose qui, par contre, est très présent et qui demande une réflexion. Donc, je lisais récemment qu'une loi, par je ne sais pas quel penseur ou scientifique, était que la technique créée dans les sociétés on était forcément, alors c'est une loi qui obligeait que la technique soit utilisée, donc avec tous les dangers que des techniques négatives soient utilisées, parce qu'il y avait une sorte de force maléfique qui poussait à utiliser la technique. Alors là, je pense que cette loi, c'est pas une loi scientifique, c'est une élucubration, et je voudrais au contraire démontrer que c'est totalement faux, que la technique, d'abord, elle a toujours existé par l'homme, et c'est bien le contraire, c'est que les sociétés utilisent la technique pour se maintenir ou pour changer, et quand il y a une société qui mute, elle va se servir de techniques nouvelles, et quand une société veut se maintenir, elle va se maintenir en utilisant ses propres techniques, et les exemples ne manquent pas. Alors, on va marquer une pause musicale et on va parler de ces quelques exemples qui me paraissent historiquement incontournables.
Je dois retenir la leçon, faut pas parler quand on sait pas. Mes goûts dans les doigts, jamais trop serein dans mes choix. L'angoisse a pris des rides, on s'est aimé au prêt des rites. Je veux que être une légende, fuck shit, j'ai perdu ma B-élite. Je capte ceux qui parlent mal, un paquet de clubs des cartons dans mon cartable. Pas trop par clash, je suis un garçon du bordable. À la fin, je serai tricard sur mon Bartman. Dans le parrain, j'ai 10 000 mensonges. À faire, fallait voir ce que j'étais prêt. Je me rappelle de mon rêve d'hier soir. Fallait y être, fallait voir comme j'étais frais. J'ai pas grand monde à protéger. Passer la journée à trotter, passer la journée à trotter, passer la journée à trotter, pas grand monde à protéger, passer la journée à trotter, passer la journée à trotter, passer la journée à trotter. J'pourrais donner ma vie si j'suis pas belle, faut souffrir pour rester différent. J'parle depuis mon écosystème comme si j'avais tout vu, mais le monde il est grand. J'lis des grandes choses sur un petit écran, j'regarde pas dans les yeux. Quand j'avais du shit dans les pneus, je crois que je me sentais mieux. Je pourrais gagner ma vie si je suis pas bête, faut souffrir pour rester différent. J'ai jeté mes remords à la poubelle, les sourires, les larmes et les pieds pendent. En vrai, je m'en répondrais si elle m'appelle. Air faire, ça fait fuir mes crampes. Mon cœur aurait besoin d'une attelle. Il parle en mort, je peux l'entendre crier à l'aide. J'ai failli tout gâcher. Le cerveau tout taché. J'ai faim, je vais tout mâcher. Je suis l'étranger d'ici. J'ai laissé tout passer. Je peux pas me ranger si c'est. J'ai fini de tout casser. J'ai des tocs, je les ai développés quand j'étais gosse. J'ai du mal avec l'amour, j'en aurais bien voulu quand j'étais moche. Du mal avec le violon, avec la cour que tu me fais. On sait, tu sais pas, mais tu dis que tu le sais. Que je me hais, que tu le sais. Que tu me tords, que tu me saignes. Guest de rose, mais je trouve qu'elle pue toute la mer. Je casse la serrure avec le tool, comme envie de braquer toute la terre. J'ai dit des tas de trucs que je savais pas et ça m'a fait des blèmes. J'ai promis des tas de trucs que je savais pas, je compte plus les promesses que j'ai qu'elle. Je pourrais donner ma vie si je suis pas belle, faut souffrir pour rester différent. Je parle depuis mon écosystème comme si j'avais tout vu, mais le monde il est grand. Je lis des grandes choses sur un petit écran, je regarde pas dans les yeux. Quand j'avais du shit dans les pneus, je crois que je me sentais mieux. Je pourrais donner ma vie si je suis pas belle, faut souffrir pour rester différent. J'ai jeté mes remords à la poubelle, les sourires, les larmes et les pieds pendent. En vrai, je m'en répondrais si elle m'appelle. La fière, ça fait fuir mes crampes. Mon cœur aurait besoin d'une attelle. Il parle en marche, je peux l'entendre crier allez.
Alors reprenons ce problème de la technique dans l'histoire. Alors il est vrai que l'histoire, et notamment la préhistoire, qui est faite pour une grande partie, je pense, par des gens qui ont des formations scientifiques, paléontologues, des gens qui ont une approche donc scientifique et l'approche scientifique qui est cumulative. La science se cumule au fur et à mesure des âges, ce qui n'est pas le propre de ce que l'on appelle d'une manière erronée les sciences humaines, ce que l'on peut... qu'il faudrait mieux appeler les humanités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès de Platon, Aristote ou Descartes. Il n'y a pas de progrès dans les humanités. Il n'y a pas de progrès dans les arts non plus. Il y a des différences, il y a des changements qui sont liés aux époques, aux manières de vivre, effectivement aussi, aux techniques employées, et donc on n'est pas du tout dans une marche en avant comme on a pu croire, et là bon, c'est pas le propos d'aujourd'hui, l'âge de pierre, l'âge du bronze, l'âge du fer, on sait très bien qu'il y a par exemple les Égyptiens ils utilisaient le cuivre par le fer et ils étaient une civilisation qui s'est maintenue pendant 3000 ans et avec des un raffinement, une complexité extrême. Mais on pourrait généraliser ça à d'autres civilisations. Alors, mon propos, c'est de dire que la technique est au contraire adaptée et vous allez voir comment je vais en venir à l'intelligence artificielle, est adaptée à chaque société. Bon, par exemple, prenons l'exemple du béton. Alors, on sait que les Romains ont employé du béton. Par exemple, le dôme du Panthéon de Rome est fait en béton. Alors, ce n'est pas du béton armé, il est simplement nervuré. Mais le système de construction romain par rapport au système de construction grec, c'était d'avoir des remplissages et avec des faces qui sont soit avec une pierre qui est ce qu'on appelle des boutis, c'est-à-dire il y a une face qui est lisse et de part et d'autre, ou alors des plaquages, et on est sur l'équivalent, et on verse à l'intérieur, donc de cette épaisseur de parement, on verse un mélange qui est du gravier, de la chaux, du ciment et des pierres concassées, bon, exactement comme on fait aujourd'hui le béton, comme vous voyez dans ces toupies là, ces camions toupies qui versent dans du béton. Alors les Romains font cela, ce n'est pas un progrès technique, c'est un mode technique adapté à leur structure sociale. On sait que les Romains, c'est un peuple de conquête, un empire qui s'étend avec une armée régulière extrêmement constituée et performante, et au fil des conquêtes, on a des esclaves, et aussi on a des soldats qui, quand ils ne font pas la guerre, sont une main-d'œuvre qui doit être employée. Donc c'est une main-d'œuvre qui n'est pas spécialisée, et donc il faut à la fois des artistes et des artisans pour faire les détails de l'architecture, mais on peut dire le gros œuvre est fait par une main d'œuvre non spécialisée. Et les Grecs n'avaient pas, même s'ils avaient des esclaves, ils n'avaient pas cette population, donc ils étaient beaucoup plus sur un artisanat spécialisé pour faire des assemblages de pierres et où la compétence est nécessaire, on peut dire, sur une grande partie de la chaîne de la construction. Alors, on retrouve cela au Moyen-Âge, par exemple, où on construit les cathédrales à la fois romanes et à la fois gothiques, à part parce qu'il n'y a pas une main-d'œuvre, on peut dire, qui n'est pas spécialisée. Il y a donc la structure sociale, au contraire, est faite de compagnonnage, de structure, d'apprentissage élaborée. et on peut dire de complexité égale et qui crée les chefs-d'œuvre qui nous sont arrivés jusqu'ici. Alors, le béton réapparaît par exemple en France au XXe siècle et surtout on a là, on peut dire, l'explosion après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour quelle raison ? Parce qu'il faut construire rapidement, on a peu de main-d'œuvre, on fait appel à une main-d'œuvre immigrée qui, là aussi, n'est pas spécialisé, et le béton, avec des banches et en coule, est plus adapté. Donc ce n'est pas une question de civilisation, d'une époque générale de civilisation, parce qu'on a en même temps, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, qui n'ont pas les mêmes, on peut dire, la même historique que nous, qui n'ont pas eu donc la guerre sur leur sol non plus, avec les démolitions, qui n'ont pas donc ce problème, et le béton armé très peu employé. Il est employé dans les fondations, mais il n'est pas employé dans la construction. Et on a les constructions qui sont faites pour le tout venant de l'habitat pavillonnaire, entre guillemets, en bois. Et donc, à la fois, c'est le bois qui est fabriqué en usine, mais aussi qui est monté par des charpentiers spécialisés et évidemment organisés, très bien payés, et également pour les immeubles, c'est le fer. Et les gratte-ciels sont construits en métallique. Et là aussi, c'est toute la chaîne, à la fois usinage et montage spécialisé par des charpentiers en fer. Donc, on n'a pas une main-d'œuvre de non-spécialistes. Donc, vous voyez avec ces deux exemples qui sont contemporains, que la clinique n'est pas du tout un phénomène qui est indépendant des hommes, et elle est bien utilisée par chaque civilisation. Donc, aujourd'hui, quand on entend parler de l'IA et de la technique, on a l'impression d'une main invisible qui fait peur, et comme s'il y avait les Illuminati ou je ne sais pas quel dieu, alors pour certains bénéfiques et pour d'autres maléfiques, ou quel diable donc, et aller nous envoyer les techniques dont il faudrait utiliser en bien, en mal, on ne sait pas. Et tout ça me semble infantile, parce qu'en fait, effectivement, les sociétés, comme je viens de vous l'expliquer avec les exemples à l'instant, ne fabriquent que les techniques dont elles ont besoin. Donc, la question qui est à se poser avec l'IA et avec ChatGPT, c'est justement de pourquoi aujourd'hui on a cette explosion des nouvelles techniques. Alors, pour revenir en arrière sur justement cette assertion qui est fausse, de dire que chaque fois qu'il y a une technique, elle doit être utilisée, il y a des techniques qui sont abandonnées. Souvenez-vous par exemple, il n'y a pas très longtemps, on avait les hologrammes. Tout le monde avait dit, les hologrammes, ça sera quelque chose que l'on va trouver. Alors, Mélenchon avait fait, fait une scissiparité dans deux conférences en même temps avec un hologramme, mais en fait, ça n'a jamais été suivi. Et les hologrammes, on les voit dans des films de fiction, mais c'est une technique qui est maîtrisée, mais dont on ne voit pas l'utilité. Les raisons existent, bien sûr. Et ce n'est pas des raisons techniques. C'est des raisons de... Ça ne correspond pas au désir de la société. Il y a quelques décennies, on avait construit à Poitiers le Futuroscope. Donc, à l'époque, il y a déjà une quarantaine d'années, on avait annoncé que c'était le futur d'avoir des cinémas en 3D avec les sièges qui bougent. Alors, je ne sais pas si vous y êtes allé, mais bon, c'est effectivement impressionnant. Moi, je me souviens d'avoir vu un film là où c'était Vatanen, là, le rallye, le conducteur de rallye, et on avait l'impression d'être dans sa voiture, les virages, la voiture sur le sol, parce que le siège bougeait. Bon, c'est très, très impressionnant, mais en fin de compte, on voit ça une fois, on n'a pas envie de recommencer. Et aujourd'hui, ça plaît aux enfants, mais les enfants aussi n'en redemandent pas. Enfin, c'est quelque chose qui, le cinéma 3D ou ces cinémas ces cinéramas n'ont pas eu de succès, et ça reste toujours, pour ce que c'est, une étrangeté de foire et pas plus. Donc on peut voir que des techniques, il y a par exemple aussi dans le même ordre d'idée, les lunettes 3D, Apple, Microsoft ont essayé d'en lancer. J'ai entendu qu'ils en relancent une, mais ça marche pas parce que ça ne correspond pas aux désirs des gens. Donc la question est bien celle-là. Et mon explication que je vous donne sur l'intelligence artificielle, c'est que, contrairement à la science qui avance par strates successives, et quelque part indépendamment des scientifiques, c'est comme une sorte de puzzle où on rajoute des morceaux et puis l'image du réel se voit de mieux en mieux et avance au cours des ans. Mais l'homme, lui, n'avance pas. Il est dans une connaissance plus grande, mais dans une complexité aussi qui n'existait pas avant. Enfin, quand je parle d'une complexité, c'est relatif. On est plutôt, c'est dans le numérique, dans le nombre plutôt. Oui, il ne faut pas se tromper sur le mot numérique qui, effectivement, peut créer une confusion. Ce que je veux dire, c'est que le fameux pic de la Mirandole possédait toute la connaissance de son temps. Les encyclopédistes du XVIIIe siècle, Diderot, par exemple, créent l'encyclopédie avec les articles, les volumes, où on veut avoir en volume toute la connaissance de son temps. Et il y arrive. Donc il fait appel à 200 savants, ce qui est extraordinaire et prodigieux pour l'époque. Mais aujourd'hui, si on voulait avoir la connaissance, c'est pas 200 savants, je ne sais pas combien il faudrait, 2 millions, peut-être 20 millions d'ailleurs, je ne sais pas. Mais le chiffre serait pharaonique, et un des problèmes de l'époque, justement, parce qu'il y a ces avancées scientifiques, c'est que non seulement le pic de la Mirandole ne peut pas exister, on le sait bien, mais même la synthèse des 200 savants avec l'encyclopédie est totalement impossible. Les bibliothèques spécialisées, c'est des millions de volumes en spécialisation, et donc on se trouve avec un émiettement de la connaissance qui justement empêche la synthèse. Pourquoi ? Parce que c'est très long d'aller chercher l'information. Alors ça s'est accéléré avec l'accès par le numérique, où on raccourcit ce temps qu'il fallait pour chercher dans une bibliothèque. Alors c'est vrai que l'on peut dire le travail de chercher dans un livre est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a la sérendipité, on peut trouver des choses qu'on ne cherche pas. Mais au final, c'est quand même très très complexe, c'était très complexe d'aller faire des recherches historiques, et aujourd'hui c'est infiniment plus rapide. Et effectivement, l'intelligence artificielle ne va faire qu'accélérer, et au final, ça nous fera revenir justement pas revenir en arrière, mais en tout cas, et ça me paraît le côté positif, à cette possibilité de synthèse, parce que justement, on va pouvoir plus facilement synthétiser les connaissances qui sont accessibles et que l'on n'a plus besoin d'assimiler avec la mémoire ou avec des cahiers, ou ce qui était le cas il n'y a pas très longtemps, des cahiers reliés ou avec des classeurs que l'on met à jour. Tout ça, c'est terminé, et on a effectivement des mises à jour permanentes des connaissances au fur et à mesure, et avec aussi une facilité. Alors, évidemment, tout ce qui va être le par cœur dans la transmission de l'enseignement va être en grande partie supprimé, mais on atteint aussi ces possibilités de connaissance ces possibilités de synthèse de la connaissance qui me paraissent une avancée majeure. Donc, au final, c'est la boucle est bouclée. On revient avec notamment la parole, c'est ce que je suis en train de faire, et la possibilité d'interroger directement un smartphone pour avoir une réponse à travers ChatGPT. Et on revient à l'oralité où on pouvait interroger un sachant qui était un savant, qui était un sage dans les civilisations anciennes. Et cela, ça va être la possibilité justement pour tout le monde. Et au final, cette avancée, c'est le cercle. C'est-à-dire que la révolution, eh bien, c'est la révolution dont on parle tant. On a oublié que révolution, ça veut dire revenir au point de départ. Et que dans révolution, il y a peut-être le mot évolution, mais l'évolution, elle est scientifique. Et la révolution, elle est humaniste. Et qu'il est intéressant aussi de revenir aux sources et aux sources de l'humain. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. C'était Où vivrons-nous demain, une émission de Jean-Pierre Estrampe. Je remercie Grégor qui était à la technique et je vous dis à la semaine prochaine.